Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'ai fait confiance en la vie. Je me suis dit, ça se présentera quand ça se présentera. Je suis pas pressée. Quand j'ai rencontré Caroline, j'étais jeune, donc je voulais pas un enfant dans l'immédiat. Je savais que ça allait vite arriver, mais je me suis dit, je verrai bien. Ça se présentera quand ça se présentera et ça sera OK.
Avec le vote de la nouvelle loi bioéthique le 2 août 2021 et la publication au journal officiel de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, la France a rattrapé une partie de son retard. Vous écoutez un des épisodes fil rouge du podcast « Les enfants vont bien », dans lequel je vous invite à suivre le parcours PMA en France de Léa et Caroline.
Avant de savoir que la France ouvrait le parcours PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, vraiment,
on n'avait pas envisagé forcément de faire un parcours à l'étranger. Enfin, on savait pas trop. On avait envie d'avoir un enfant. On était enfin décidé, mais on savait pas trop comment ça allait se passer.
Ouais. Et en fait, vraiment, à ce moment-là, on s'est pas du tout renseigné. On s'est pas du tout dit on va se lancer. J'avoue que, en fait, ce qui nous freinait énormément, c'était le côté financier et surtout le fait que la deuxième maman doive adopter l'enfant. Et ça, du coup, Caroline, elle avait, et je comprends totalement, elle avait peur, en fait, de pas être considérée comme la deuxième maman de cet enfant. Et du coup, on s'est jamais dit, on va faire un parcours à l'étranger. Ça nous a jamais... On avait aussi parlé d'adoption. Parce que moi, c'est quelque chose depuis toujours qui m'a toujours attirée. Je trouvais que c'était vraiment un très beau geste, malgré le fait que je me disais je peux avoir un enfant avec un garçon, puisqu'à l'époque, du coup, j'étais avec des garçons. Mais quand même, l'adoption m'attirait. Ça, on en a un petit peu parlé et on s'est rendu compte que c'était très long, très compliqué. Mais à la fois, on était plutôt parti pour le coup pour cette piste-là, plutôt qu'un parcours PMA à l'étranger. L'insémination de façon artisanale, ça, on n'en a jamais parlé non plus du tout. C'était pas du tout dans nos pistes de réflexion, quoi. J'avoue que moi, j'aurais bien aimé passer par Cryos, vraiment. Et je l'avais dit d'ailleurs à Caroline. J'aurais vraiment beaucoup aimé parce que on a plus de visibilité et plus de choix en termes de même rien que de caractéristiques physiques, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose...
Et puis après, au final, très vite, on a commencé à entendre parler de l'étude de cette loi, de cette nouvelle loi bioéthique. Et là, ben, je crois qu'on s'est dit que peut-être ça serait pour nous le moment, quoi. Finalement, jusqu'alors, on n'avait pas forcément de solution. Et on s'est dit, ben, peut-être que la solution, ça va être celle-ci. Si la loi passe, ça va beaucoup nous faciliter les choses.
Ouais. En fait, le chemin s'est dégagé petit à petit devant nous. Enfin, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance parce que au moment où notre réflexion était plus lucide, claire pour nous, en fait, on avait les solutions aussi qui se présentaient à nous sans qu'on fasse forcément grand-chose. Longtemps, j'avais beaucoup de mal avec le fait de recevoir un don de spermatozoïdes. J'étais pas encore à l'aise avec ça. Il y a peut-être 2 ans maintenant. Je me suis renseignée, du coup, j'ai écouté le podcast que tu as enregistré. Et en fait, petit à petit, on a compris, là où les motivations des donneurs, on a compris comment ça se passait, le cadre aussi médical, parce que il faut savoir que moi, je suis assez éloignée du médical et j'ai assez peur de certaines choses. C'est le fait que j'allais recevoir dans mon corps quelque chose de quelqu'un que je ne connaissais pas, quelque chose d'étranger à moi. Et en fait, c'est tout simplement que je ne m'étais jamais imaginée concevoir un enfant de cette façon-là. Et du coup, eh bien, voilà, je me suis posé des questions petit à petit. Et au début, je me disais, suis pas prête. Je suis pas prête parce qu'en fait, je ne connaissais pas. Et moi, je suis quelqu'un qui se renseigne beaucoup, qui a besoin de savoir, de connaître, d'apprendre avant de faire les choses. Et du coup, là, en fait, je ne m'étais jamais renseignée sur ce sujet-là. Je ne m'étais jamais documentée. Je ne savais pas de quelle manière, en fait, c'était effectué. Enfin, voilà. Et comme j'étais dans l'ignorance, j'étais un peu dans le non. Je me disais, oula. Mais du moment où je me suis renseignée, où je me suis documentée, en fait, ça s'est vraiment éclairé et je me suis dit que, en fait, si, voilà, j'étais prête, j'étais complètement OK avec ça.
En fait, Léa était vraiment rassurée de savoir que tout le monde ne pouvait pas donner ses spermatozoïdes, qu'il y avait vraiment beaucoup de tests et d'analyses qui étaient effectués. Et ça, ça l'a vraiment mise plus à l'aise par rapport à l'idée de recevoir un don d'un donneur. Ouais.
C'était plutôt, oui, comme tu dis, c'était plutôt concernant aussi, voilà, les maladies potentielles, le patrimoine génétique. C'était tellement flou pour moi que du coup, c'était compliqué d'accepter ça, sachant que j'avais pas tous les tenants et aboutissants. Quoi. Ça m'a rassurée de voir comment les dons étaient effectués. Après, pour la question de l'anonymat, moi, au début, j'étais pour un donneur anonyme parce que, en fait, je sais pas. Parce que je pense que j'avais peur pour Caro, en fait. Parce que du coup, comme c'est moi qui vais porter cet enfant, j'avais un peu peur de sa position, enfin, voilà. Et en fait, au fil, du coup, des réflexions, des discussions et des podcasts écoutés, je me suis dit, non, en fait, vraiment, pour cet enfant, c'est peut-être mieux qu'il ait, s'il le souhaite, accès à ses origines. Donc, la nouvelle loi aussi a bien expliqué ça. Et du coup, c'est Caroline aussi qui m'a vraiment convaincue parce que elle va l'expliquer, mais elle souhaitait un donneur non anonyme.
Oui, moi, ça me paraissait important, alors, de mon point de vue, hein, que notre enfant, s'il le souhaite à sa majorité, puisse avoir accès à ses origines. Parce que je me disais que peut-être pour certains, ça pouvait être un peu déstabilisant de ne pas savoir en fait... quelles étaient les motivations du donneur. Enfin, je me suis dit, c'est peut-être que cet enfant se posera beaucoup de questions et je trouvais ça bien qu'il puisse avoir accès à des réponses s'il le souhaite.
Moi, en fait, je me dis que ça dépend vraiment de comment on explique tout ça à l'enfant, comment on l'amène. Mais c'est vrai qu'on a souvent entendu parler de... le donneur fera partie de son histoire, c'est une pièce du puzzle qui fait partie de son histoire, de sa construction, et c'est vrai que on s'est dit, pour lui, en fait, c'est, s'il en ressent le besoin, au moins il aura cette possibilité-là, et on trouve du coup ça important à prendre en compte, quoi.
Et c'est après qu'on a découvert, en fait, qu'en France, du coup, dans les Sécos, il n'avait pas du tout, enfin, il faisait pas du tout appel à Rios ou à d'autres... Du coup, on s'est dit, bon, on verra comment ça se passe. Mais...
Ouais.
Je crois que tout le monde a besoin d'être éclairé sur tout ça pour être assuré. Hein.